Cette méditation que l'on vient de faire, je le dis pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont nouvelles dans le Dharma, s'appelle en tibétain chiné, en sanskrit samatha, et on traduit ces termes en français par le calme mental. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une méditation pour débutants. Parce que dans toutes les écoles bouddhistes, on commence par ce type de méditation. Calme mental, c'est synonyme d'une stabilité de l'esprit. Shiné veut dire cela. La syllabe shi veut dire pacifier, paix, et né veut dire stabilité. Donc c'est un esprit qui est stable dans un état de paix, de tranquillité. Et c'est clair que toute notre vie, nous allons avoir besoin de développer cette méditation, même si on médite depuis 10 ans, et qu'on passe à d'autres types de méditation, telles que la vision supérieure, par exemple, l'Aktong. Il y a une chose commune que l'on rencontre, que l'on constate quand on rencontre des bodhisattvas accomplis, qu'on appelle des Rinpoche. C'est toujours leur bonne humeur, une détente de l'esprit. On dirait qu'ils n'ont jamais de soucis. Ils sont toujours joyeux, toujours souriants. Pourtant, ils vivent exactement les mêmes situations que nous-mêmes. Et que ce soit le Dalai Lama ou tout autre Rinpoche, même le week-end dernier on recevait Motu Rinpoche, c'est pareil, on peut constater chez tous ces maîtres-là, eh bien, qu'ils traversent les épreuves de la vie quotidienne comme si c'était un peu de l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Sans que ça s'accroche. Ça coule. Ils traversent tout ça. Et apparemment, eh bien, ils ne sont pas perturbés, ils ne sont pas affectés. Et ils continuent d'être de bonne humeur, d'être joyeux, d'avoir de l'attention pour les autres, d'avoir de la compassion, la bodhicitta, etc. C'est parce que leur esprit est stable. Alors bien sûr qu'ils ont abordé d'autres méditations telles que la vision supérieure, mais on ne peut pas développer les expériences de la vision supérieure, de l'Aktong, si notre esprit n'a pas un minimum d'expérience de stabilité. Ce qu'on appelle le Mahamudra, l'éveil, c'est l'union de Shiné et de l'Aktong. C'est l'union du calme ou de la stabilité et de l'expérience de la nature de l'esprit. Si notre esprit manque de stabilité, il sera difficile d'avoir une expérience de la nature de l'esprit, et si toutefois elle s'élève, eh bien, elle manquera totalement de stabilité. L'éveil, c'est lorsque cette expérience de la nature de l'esprit est stable une bonne fois pour toutes, et que plus rien ne peut venir la faire disparaître, si vous voulez. Ce qu'il faudrait vraiment, ce soir, demain, allez, on va dire après-demain, ce qu'il faudrait vraiment que vous expérimentiez, c'est que cette méditation de Shiné, c'est le début de la libération. La libération ne se réalise pas, ne s'expérimente pas quand on a 50 ans de grotte, de pratique dans une grotte, ou d'une vie tout entière, de retraite, de vie en ermite, ou je ne sais quoi. La libération, elle peut se goûter, elle peut s'expérimenter dans la méditation de Shiné. Très vite, au bout de quelques mois, on peut goûter à cela. Shiné, ce n'est pas simplement laisser passer les pensées ou les phénomènes. Il faut comprendre pourquoi nous les laissons passer. Et ça, nous devons utiliser notre intelligence, notre faculté de discernement, d'observation, pour comprendre pourquoi on nous demande de laisser passer les pensées et l'ensemble des phénomènes. Parce que si nous les agrippons, si nous les retenons, si nous les rejetons, si nous les solidifions, si nous les cristallisons, etc., nous souffrons. Et notre souffrance, elle a pour cause ce fonctionnement de l'esprit. Les Rinpoche, qui ont toujours l'air détendus, ils traversent tous les problèmes que nous traversons au cours de notre vie. Ils sont malades, ils sont âgés, ils connaissent la mort de leurs proches, ils vivent dans le même contexte politique, dans le même contexte économique, et souvent dans des contextes bien pires à ce niveau-là, parce que dans certains pays, c'est bien différent de nos contextes ici. Et comment se fait-il alors? Eh bien, que leur esprit, malgré tout, ne connaisse pas le stress, ne connaisse pas l'angoisse. Leur esprit est toujours détendu, toujours souriant, et surtout toujours disponible pour ceux qui souffrent. Il faut se poser cette question-là. Est-ce que ce sont des êtres exceptionnels qui sont nés comme ça, ou avec des capacités absolument extraordinaires et supérieures? Le Bouddha a toujours prétendu que non. Le Bouddha a toujours dit qu'il n'y avait pas de différence entre lui, entre un Bouddha de notre époque et nous-mêmes. Nous pouvons être comme ça. Nous pouvons devenir comme ça. Et rapidement. Mais nous devons comprendre quelle est la cause de notre souffrance aujourd'hui. Pourquoi souffrons-nous? Pourquoi les êtres souffrent? Pourquoi sommes-nous stressés? Pourquoi sommes-nous angoissés du futur, de ce qui va se passer? Pourquoi sommes-nous toujours en colère par rapport à ce qui se passe là, aujourd'hui? Par rapport à l'autre qui m'a regardé de travers? Par rapport à l'autre qui m'a fait une réflexion pas sympathique? Pourquoi souffrons-nous? Voilà. Ça, c'est la deuxième noble vérité. La première noble vérité, on la connaît. C'est tous les êtres souffrent. Il n'y a pas besoin de rester 6 mois sur cette première noble vérité. Il n'y a qu'à constater que nous souffrons. Mais la deuxième noble vérité, elle est beaucoup plus subtile et nous devons y passer beaucoup plus de temps. C'est pourquoi souffrons-nous? Les êtres sans une démarche méditative attribuent la cause de leur souffrance toujours à un élément à l'extérieur d'eux-mêmes. Observez, interrogez, discutez avec votre entourage. On souffre parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a la situation, parce qu'il pleut, parce qu'il fait trop chaud, parce que... etc. Jamais vous avez quelqu'un qui répond, qui vous répondra « Je souffre, mais je suis responsable de ma souffrance. » Ça, c'est une approche, c'est une démarche qui est vraiment bouddhiste. Nangpa, en tibétain. Être bouddhiste se dit Nangpa. Nang veut dire à l'intérieur. Un bouddhiste, c'est quelqu'un qui voit que la souffrance qu'il endure, qu'il expérimente, la cause de cette souffrance, n'est pas fondamentalement à rechercher à l'extérieur de lui-même. Mais elle doit... Cette personne doit comprendre que la cause est à l'intérieur de lui. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ça, c'est une question que vous devez vraiment vous poser en tant que pratiquant bouddhiste. Toutes les souffrances que vous traversez au cours d'une journée, tout votre mal-être, toute votre angoisse, votre stress, votre énervement, votre irritation, etc. Le sentiment d'en avoir par-dessus la tête, d'avoir une overdose, etc. À un moment donné, en tant que bouddhiste, il faut se dire, est-ce que c'est vraiment les situations dans lesquelles je me trouve, les circonstances que je rencontre, qui sont profondément la cause de toutes ces souffrances, ou est-ce que cette cause, elle ne serait pas en moi-même, dans mon esprit. Observez. Le jour où on comprendra, vraiment, mais pas parce qu'on nous le dit, mais le jour où on le comprendra parce que nous expérimentons, parce que nous avons observé, et parce que nous en sommes absolument sûrs, parce que nous en faisons l'expérience, que la cause de toutes les différentes formes de souffrance que nous pouvons expérimenter, elle se trouve dans notre esprit, alors là, on commencera vraiment à méditer. On ne fera plus semblant de méditer. On méditera vraiment. C'est-à-dire que toute notre pratique se portera, à chaque seconde de notre pratique, sur le fonctionnement, sur ce fonctionnement de notre esprit qui est cause de notre souffrance. Parce que notre objectif sera de déraciner cette cause. Et une deuxième chose s'élèvera de façon très forte dans notre esprit. C'est une véritable compassion. C'est une véritable bodhicitta. Parce qu'on comprendra que tous les êtres souffrent, et ils ont tous en eux-mêmes la clé pour ne plus souffrir. Mais ils ne le savent pas. Ou même s'ils le savent, ils n'utilisent pas cette clé. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ou ils ne savent pas comment l'utiliser, etc. Nous sommes responsables de notre souffrance, nous sommes responsables de notre libération. Et tous les êtres sont responsables. Évidemment que nous pouvons modifier les circonstances. Nous pouvons faire en sorte, et ça c'est la bodhicitta relative, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait moins de souffrance autour de nous et œuvrer pour qu'il y ait moins de souffrance. Et le Bouddha n'a jamais dit qu'il fallait simplement méditer, s'asseoir, et ne pas faire quelque chose pour qu'il y ait moins de souffrance. Mais si nous voulons éradiquer de façon ultime la souffrance, alors nous devons expérimenter que la cause de cette souffrance, elle est en nous-mêmes. Mais ça, il faut en être sûr. Il faut observer le fonctionnement de notre esprit. Lorsqu'on ne laisse pas passer une pensée, comment est notre esprit? Comment vit notre esprit? Comment réagit-il? Observez. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, si vous n'êtes pas convaincu de ça, repensez à une situation douloureuse que vous avez vécue il y a une dizaine d'années, par exemple. Faites émerger une pensée par rapport à un deuil que vous avez vécu, par rapport à une séparation que vous avez vécue, et on a tous matière à prendre ce genre de support pour notre pratique. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas vécu ce genre de situation. Faites naître ce type de pensée et agrippez-la bien. Solidifiez-la, retenez-la, amplifiez-la, moulinez bien. Et au bout de 3 minutes, 4 minutes, comment est votre esprit? Observez. Comment est devenu votre esprit au bout de 3, 4 minutes? Est-ce qu'il est toujours paisible? Est-ce qu'il est toujours tranquille, en paix, détendu, souriant? Ou est-ce qu'il n'y a pas à nouveau une expérience d'une douleur certes moindre, mais à nouveau une apparition de la souffrance qu'on a pu vivre lorsqu'on a vécu réellement cette situation il y a quelques années? Alors, est-ce que c'est cette pensée qui fait naître à nouveau cette expérience de souffrance dans notre esprit? Ou est-ce que ce ne serait pas la façon dont notre esprit a fonctionné par rapport à la présence de cette pensée? Qui est le responsable de nos souffrances? Bien souvent, eh bien, on considère que c'est la pensée qui est responsable de notre souffrance. Alors on se dit, et on dit, et autour de nous, on entend sans arrêt de dire « Oh là là, il faut pas penser à ça. Tu vas te faire souffrir, mon pauvre. Il faut pas penser à ça. » Et qui peut empêcher de penser à des situations que nous avons vécues dans le passé? Nous avons cette faculté qui s'appelle la mémoire, le souvenir, que ça nous plaise ou non, ces pensées vont continuer de s'élever dans notre esprit. Et de même, nous avons la possibilité de nous projeter dans l'avenir, et nous continuerons, eh bien, d'avoir des projections dans l'avenir, de nous imaginer, d'avoir des pensées relatives à notre vieillesse, à de futures maladies, à notre mort, à la mort de proches, etc. Personne ne peut s'empêcher de penser, d'imaginer ce genre de situation. Les Rinpoché ont des souvenirs, les Rinpoché, ils ont des projections dans le futur. leur esprit fonctionne comme nous. Seulement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme nous chez eux. C'est que quand il y a ces pensées-là, eh bien, ils les regardent, ils sont conscients, ils ne sont pas du tout indifférents, ils sont conscients de leur présence, mais alors vraiment, ils les laissent passer. Et alors, il n'y a plus de problème. Le fait d'avoir ce genre de pensée n'est pas considéré comme un problème. C'est tout à fait normal, c'est le mouvement de l'esprit. Et ça, c'est la méditation de Shiné qui nous apprend à cela. Donc Shiné, c'est déjà le début de la libération. Mais nous devons faire cette expérience d'être libérés de ce mode de fonctionnement. Alors non seulement nous expérimenterons que c'est ce mode de fonctionnement ordinaire qui est la cause de l'apparition de la souffrance, mais que si on médite vraiment, si on laisse passer quel que soit l'élément qui s'élève dans l'esprit, eh bien notre esprit, on expérimente immédiatement que notre esprit, eh bien, n'est plus perturbé. Donc, on expérimente que la libération est possible. Et ça nous permet de passer à l'actong, ça nous permet de passer à la vision supérieure. Parce que dans cette expérience, eh bien, la deuxième expérience qui s'élève, c'est on expérimente la nature de ce mouvement, on expérimente la nature des pensées. On les voit comme uniquement du mouvement, insaisissable. Mais c'est ce qu'on appelle la vacuité, c'est pas autre chose. Donc, dans ce type d'expérience, on est déjà en train d'entrer immédiatement dans la pratique de l'actong ou de la vision supérieure. Alors si, quand on médite, il ne s'agit pas d'empêcher quoi que ce soit de s'élever. Il y a des causes et des conditions qui font que ces mouvements d'esprit, eh bien, s'élèvent. S'il y a une voiture qui arrive là, qu'on le veuille ou non, nous aurons la perception de cette voiture. On percevra le bruit. S'il y a de l'encens, que ça nous plaise ou non, on percevra l'odeur. Ma conscience visuelle fonctionne, je vous vois, quoi. J'ai envie, pas envie, peu importe, c'est pas le sujet. Je vois ce qu'il y a en face de moi, comme vous voyez ce qu'il y a en face de vous. Les perceptions sont là. Les sensations sont là. Si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez mal à un genou, que vous méditiez ou pas, vous continuerez d'avoir chaud, froid ou mal au genou. Ça ne va pas disparaître par enchantement. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Et donc, il y aura toujours des pensées. Et tout ça s'élève, c'est expérimenté à partir de causes et de conditions. Ça n'apparaît pas comme ça, mais ça apparaît à partir de quelque chose. Et tant qu'il y a quelque chose qui permet à ces phénomènes de s'élever, d'apparaître, eh bien ces phénomènes apparaîtront, quoi, que ça nous plaise ou non. Et vous savez, quelquefois nous avons l'impression d'avoir une pensée pendant toute une nuit, ça nous empêche de dormir, et on a l'impression que c'est toujours la même pensée qu'hier. Et si on décortique bien le phénomène, cette pensée, elle n'est pas là. Elle s'élève, traverse l'esprit, disparaît. Et la pensée qui vient tout de suite après, elle s'élève à partir des mêmes causes et conditions. Donc, c'est une pensée qui ressemble très fortement à celle qui vient de traverser l'esprit et de disparaître. Donc, nous avons l'impression que c'est toujours la même pensée qui est là. Et puis, comme nous ne la laissons pas passer, et bien, en plus, nous l'entretenons. Alors, avec tout ça, on est sûr de ne pas pouvoir dormir. Mais faire cette expérience-là, c'est chiner déjà. C'est possible d'en chiner. Donc il faut comprendre pourquoi on nous enseigne de laisser passer les phénomènes. Il ne faut pas laisser passer les phénomènes, les pensées ou les sensations, parce que le Bouddha l'a dit, ou parce que on le dit, ou parce que c'est écrit dans tel traité de méditation. Soyez sûr que c'est le début de la libération par le fait de laisser passer tous ces phénomènes. Et quand nous serons exercés à laisser passer l'ensemble de ces phénomènes, mais nous pourrons laisser passer les phénomènes qui, à l'heure actuelle, que l'on saisit à l'heure actuelle de façon très, très solide. Et on pourra méditer quelles que soient les situations dans lesquelles on va se trouver. On a l'impression que, comment dire, les bodhisattvas accomplis, par exemple, Rinpoche, il n'y a pas plus d'activité que ces êtres-là. Ils sont toujours en action, ils sont toujours en train soit d'enseigner, de voyager, d'aller voir quelqu'un, de sillonner la planète, etc. Ils sont fatigués comme nous, ils ne sont absolument pas aux 35 heures, ils n'ont pas de retraite à 60 ans, ils ne vivent absolument pas en train de se plaindre constamment parce qu'il y a trop de boulot, parce qu'il y a du stress, parce que les circonstances ne sont pas favorables à leur tranquillité d'esprit, etc. Observez les emplois du temps de ces bodhisattvas. Vous êtes sûr d'une chose, quand ils n'ont pas de programme, regardez leur programme mensuel, il y a un jour, on dirait qu'il n'y a rien, observez bien, ce jour-là, ils ont 8 heures d'avion. Ils changent de continent, en général. Donc, qu'est-ce qui fait que, malgré tout cela, ils ne semblent pas fatigués, ils semblent tranquilles, heureux, détendus, souriants, disponibles pour les autres, avec une bodhicitta toujours prête. Simplement parce qu'ils laissent passer tout ce qui traverse leur esprit. Et ce n'est pas de l'indifférence. Ils sont conscients de tout ce qui se passe. Mais ils laissent passer. Et leur esprit est tellement entraîné qu'effectivement, ils laissent passer continuellement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas fatigués et qu'ils peuvent déployer une activité absolument... nous, on serait fatigués à la moitié de leur activité. Hein? Mais c'est ce que veut dire le texte. Il y a une strophe dans le texte de la prière d'Ajahn Chantungma qui dit « L'attention sans distraction est le corps de la méditation. » L'attention sans distraction. Et ces deux mots sont importants. Chiné, c'est être attentif. Être conscient, être attentif à ce qui se passe. C'est pas du forcing. C'est pas une contrainte. C'est pas une tension. Attention, il faut que je sois là. Il faut que j'observe qu'est-ce qui se passe dans mon esprit. Ou là, il y a ça, il faut que j'ai ça, etc. C'est dans une grande détente. C'est ce que dit Rinpoche quand il nous demande d'être relax, d'être détendu. Ça doit se faire dans une grande détente. Mais à chaque instant. C'est sans distraction. C'est un état d'attention sans distraction. Alors pas seulement quand on médite nos 20 minutes quotidiennes. Hein? C'est à chaque instant. Dans chaque situation où l'on se trouve, il doit y avoir une partie de notre esprit qui sait. C'est le mot qu'utilisait le Bouddha. Une partie de l'esprit donc qui est consciente de ce qui se passe. Et Chiné, la concentration, c'est être conscient de ce que nous sommes en train de faire, mais pas seulement. On doit être conscient de ce que cette situation dans laquelle je me trouve fait naître dans mon esprit. Il faut observer l'extérieur, mais observer l'intérieur aussi. Et s'entraîner. Alors bien sûr qu'au départ, ça sera difficile d'être constamment dans ce type d'attention. Mais quand on médite depuis des années le chiné, ça doit se développer, quoi. C'est-à-dire que quand on fait nos courses, quand on fait la cuisine, quand on parle avec quelqu'un, quand on se trouve dans telle ou telle situation, eh bien, il y a une partie de l'esprit qui est toujours consciente de ce que cette situation-là fait naître comme réaction, si vous voulez, ou comme phénomène qui émerge dans notre esprit. Et c'est ce phénomène qui émerge dans notre esprit alors qu'on doit laisser passer à ce moment-là. La stabilité, quand on dit qu'on a réalisé Chiné, ça veut dire qu'il n'y a plus de, comment dire, d'instabilité dans ce laisser passer. Alors bien sûr que ça va prendre des années et des années. Mais très vite, nous pouvons expérimenter que si on laisse passer, effectivement, notre esprit reste en paix. Notre esprit ne souffre pas. Donc, l'attention sans distraction est le corps de la méditation. C'est le corps de la méditation. Je sais bien qu'il y a des jambes et qu'il y a la tête. C'est autre chose, les jambes et la tête. Mais le corps de la méditation, la partie centrale, la partie la plus importante, c'est Shiné. C'est cette attention sans distraction. Et le texte continue en disant quelques pensées qui apparaissent, son essence et sa nouveauté immédiate. Quelle que soit la pensée qui apparaît, son essence et sa nouveauté immédiate. Ça veut dire qu'il faut reconnaître à ce moment-là que la pensée, n'est que mouvement, mais que c'est un mouvement qui se renouvelle constamment. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une pensée qui est toujours là et qui reste là. Ce n'est que du mouvement. Solidifier ce mouvement ou retenir ce mouvement, c'est antinaturel. Et c'est pour ça que ça crée la souffrance. Ce n'est pas naturel. On fait un barrage, si vous voulez. On stoppe. C'est une énergie, ce mouvement-là. C'est la dynamique de l'esprit. On appelle ça la dynamique de l'esprit. Donc c'est bien notre fonctionnement qui est cause de notre souffrance. Nous créons notre propre souffrance. Alors bien sûr qu'on a toujours été habitué à fonctionner comme ça. C'est pour ça que même si on le comprend, ça ne sera pas évident, facile, en deux sessions, de ne plus fonctionner de cette façon-là. Nous sommes formatés, on va dire. Voilà. Mais méditer, ça veut dire prendre conscience de ça et changer ce formatage, quoi. Se déconditionner. Alors, le texte continue en disant, le méditant, il reste simplement sans artifice. Ben oui. Quand nous sommes face à ce mouvement, il n'y a pas besoin de se prendre la tête parce qu'il y a tel ou tel mouvement qui apparaît dans l'esprit. Il faut se dire, mais c'est normal. Et il y aura toujours du mouvement. Mais c'est normal. Donc, la seule chose à faire, c'est de rester simple face à ce mouvement. Pas besoin de s'énerver. Pas besoin de vouloir qu'il disparaisse. Mais pas besoin non plus de le saisir et de vouloir le retenir. Simplement, ça veut dire accepter la nature de ce mouvement qui n'est qu'au mouvement et qui, dans la nature, est de traverser et de ne pas s'arrêter. Donc le méditant, il reste simplement, donc conscient, sans artifice. Il n'y a pas besoin d'analyser non plus. Pourquoi, comment, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que ce type de pensée s'élève, et pourquoi. Ça c'est un autre domaine. Mais ça ne ressort pas du domaine de la méditation. Il n'y a pas dans la méditation à se poser la question pourquoi nous avons ce type de pensée. Dans la méditation, nous constatons qu'il y a ce type de pensée, et méditer veut dire je suis conscient de cela et je laisse passer. Ça, c'est la méditation du calme mental, de Shiné. Et la dernière strophe dit la. J'invoque une grâce.
La nature des pensées.
Ah non, ça c'est la strophe d'après. Mais la dernière phrase de cette strophe, c'est accordez-moi votre grâce, que je.
Que la méditation
soit libre d'intellection. Voilà. Accordez-moi votre grâce, que la méditation soit libre d'intellection. C'est-à-dire que ce n'est pas une joute intellectuelle à faire par rapport à ce mouvement et par rapport à la nature de ce mouvement, pourquoi ça s'élève, etc. Mais dites-vous bien que lorsque vous rencontrez un Rinpoche, ce n'est pas quelqu'un d'exceptionnel, dans le sens où il l'est parce qu'il a fait le chemin, mais ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire, quoi. Le Bouddha n'était pas un dieu, le Bouddha n'était pas un prophète. Le Bouddha était un être ordinaire, point, comme vous et moi. Ce qu'il a fait, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le faire. Ça, c'est une autre, un autre aspect du bouddhisme qui est très important. Tout le monde a la possibilité de le faire. Bien sûr qu'il faut avoir certaines conditions. Poursuivre le chemin. Ouais, ça, d'accord. Mais il n'y a, ce n'est pas réservé à des êtres exceptionnels. Donc cette libération que le Bouddha a enseignée et qui est l'objectif du Dharma, de la voie bouddhiste aujourd'hui, mais tout le monde peut y aspirer et mettre en place les conditions pour l'expérimenter et la vivre jusqu'à la réaliser. Et ça, c'est l'objectif du Dharma. Avant de passer aux autres supports, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui.
Juste une question. Vous dites que la pensée se renouvelle et qu'elle n'est pas figée. Je prends une situation, je suis dans un travail sur lequel je dois me concentrer. J'ai une pensée sur laquelle je dois au contraire la développer. Est-ce qu'on parle de la même chose? Maintenant, par expérience, le peu que je pratique de la méditation, je m'aperçois des changements personnellement dans le travail, j'ai une meilleure concentration. Alors c'est un peu ce paradoxe entre ces notions de pensée qu'on doit pas s'éveiller pendant la méditation, d'un côté quand on est dans le travail, sur un sujet, sur un projet, sur lequel on doit développer quelque chose, on doit justement ne pas se disperser, justement saisir. Comment vous voyez la chose, comment vous l'expliquez?
Saisir n'est pas synonyme de se concentrer. En tout cas, en tant que vocabulaire bouddhiste, il y a la concentration qui est vue comme une qualité. Il faut être concentré. Et plus nous méditerons, plus nous serons concentrés. C'est-à-dire, plus notre concentration sera puissante, fine, aiguë, durable, etc. Mais ce n'est pas synonyme de saisir. C'est-à-dire que l'esprit reste souple, ouvert, détendu, voilà, dans cette concentration. Saisir, ça serait plutôt synonyme de crispation. On crispe quelque chose. C'est vraiment le grasping anglais, quoi. On s'agrippe à quelque chose, quoi. Et là, ça n'est plus être concentré. C'est retenir quelque chose. La concentration, c'est quelque chose qui peut être très détendu. Un Rinpoche, c'est ça qui est intéressant d'observer chez les Rinpoche, c'est qu'ils sont constamment concentrés et dans ce qu'ils font, et dans ce qu'on leur dit, dans les situations qu'ils rencontrent, ce que ça fait naître dans leur esprit. Ils sont très conscients de tout cela, et en même temps, il y a une grande détente. Vous ne les voyez jamais stressés, quoi. Ils sont jamais dans le stress. Mais ils ont 10 fois plus de boulot que nous, quoi, je veux dire. Et ils ne sont pas dans le stress. Ça vient bien que de leur esprit, quoi. Mais pourtant, ils sont concentrés. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais la différence entre être concentré, avoir une grande concentration, et puis saisir.
Non, c'était pour mon là-dessus, oui. En fait, c'est ce que vous aimez. Être concentré sur une pensée, par exemple, pendant 20 minutes.
Ouais.
Concentré sur une pensée. Et la différence entre saisir cette même pensée.
La différence est dans la détente. Et puis d'abord, je ne pense pas que vous serez concentré pendant 20 minutes sur une seule pensée.
On va dire un sujet, une idée.
Mais c'est le sujet sera composé d'un flot.
Ouais. Oui, bien sûr.
D'un flot de pensées. Oui. Mais vous ne pouvez pas dire que même si vous êtes concentré sur une pensée pendant 5 minutes, c'est la même pensée qui est toujours là.
Alors que si on saisit...
Saisir, ça veut dire... Par quel autre terme on pourrait...
Est-ce que quand on saisit, il y a aussi ce changement ou il n'y a pas ce changement?
Non, il y a justement... on retient.
Donc il y a pas, la pensée ne change pas justement.
Et non, on la retient. Et c'est pour ça que...
Est-ce que la saisie, il y a automatiquement de la souffrance?
La saisie fait apparaître la souffrance immédiatement. Mm-hmm. S'il y a saisie, il y a dukkha. Oui. Dukkha, la souffrance. Ouais.
Est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut
assimiler de la saisie au pouvoir.
Au
pouvoir.
Oui, 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 oui. C'est différents niveaux. C'est différents niveaux. Il y a d'abord l'abolition, le vouloir, qui est plus subtil que je veux. Hein. Et ensuite, dans les 12 causes interdépendantes, on voit ça. Il y a d'abord la soif qu'on appelle, et puis après la soif, il y a la saisie. C'est une différence de degré entre les deux. La soif ou l'abolition, le vouloir à ce moment-là, c'est un mouvement de l'esprit, mais ce n'est pas encore conscient. Mais c'est déjà un mouvement de l'esprit qui consiste à retenir quelque chose parce que ça lui plaît, parce que cet objet lui plaît ou parce que cet objet lui déplaît. Dans les deux cas, il y a l'abolition. Et la saisie, eh bien, c'est une solidification de ce vouloir ou de cette volition. La saisie, c'est quelque chose, c'est cette crispation, mais qui l'a déjà envahi beaucoup plus l'esprit. C'est donc déjà plus solide. Et on la voit, la saisie, que l'abolition, c'est très très subtil. Donc c'est plus grossier, la saisie.
Est-ce que la concentration peut laisser place à autre chose, alors que la saisie, c'est plutôt de la cristallisation?
Oui, la saisie, c'est cristallisation. Oui. La concentration, c'est de l'ouverture.
Oui.
C'est de la détente. C'est surtout ce mot détente. Voilà. Oui. Alors bien sûr qu'au début, quand quelqu'un qui veut commencer à méditer là maintenant, la concentration, moi j'aime pas trop ce terme parce que on voit toujours la concentration comme quelque chose d'étendre très étroit, quoi. Mais bien sûr que cette technique de méditation, ça va demander un effort à la personne. Donc c'est pourquoi il faut faire des sessions très courtes, parce que cet apprentissage de la concentration, ça va se transformer en effort et en tension. Et après, petit à petit, avec l'entraînement, avec la pratique, cette tension va se relâcher et il ne restera que la tension. Et l'apostrophe. Et ce que je voudrais vraiment, si ce n'est pas fait, et que vous expérimentiez, mais le plus tôt possible, c'est que c'est ce fonctionnement de l'esprit qui s'agrippe, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Arrêtez de rendre responsable telle ou telle situation que vous êtes en train de vivre comme étant la cause de votre souffrance. Voyez que la souffrance, elle est provoquée, vous l'expérimentez par ce fonctionnement de l'esprit qui consiste à solidifier les choses. Parce que si vous comprenez vraiment, si vous expérimentez ça, ensuite vous expérimentez de laisser passer. Et quand vous laissez passer, quelle que soit la situation que vous êtes, dans laquelle vous êtes, vous vous rendez compte que ça, tout va bien, quoi. Tout va bien. Et il y a toujours cette détente présente dans l'esprit. Il y a des fois, ça rate, évidemment. Mais si on l'expérimente, eh bien là, on se dit, mais la clé, elle est là. Elle est dans mon esprit, quoi. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre me regarde gentiment, me sourie, ou soit sympa avec moi, ou me fasse un cadeau, ou je ne sais quoi. La clé de mon bonheur, mais c'est dans mon esprit. Bien sûr, c'est toujours sympathique si l'autre me fait un cadeau, ou me sourit, etc. Mais je n'attends pas ça pour être heureux. Je ne dépends pas de cela pour être heureux. Voilà. Et ça, nous devons être sûrs de ça. Alors maintenant, il faudrait qu'on voit les autres supports de méditation, puisque vous avez médité pendant un mois en prenant pour support la
respiration. Justement, ouais. Ouais. Par rapport à la concentration, moi, ça m'arrive d'être sur un projet, enfin, me concentrer sur un projet, d'être vraiment dedans sans que ça me perturbe, en fait, voilà, c'est ce qu'il y a à faire et tout ça, mais par contre, je fais abstraction très facilement de ce qui se passe autour. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui parle dans le bureau et tout ça, au téléphone, mais vraiment, je n'entends pas, quoi. Je suis. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, c'est que. Est-ce que c'est normalement une concentration totale permet à la fois d'être à fond dans son problème et puis en même temps d'être
Oui, mais ça n'est pas automatiquement une coupure avec l'environnement. Une grande concentration peut amener à être moins conscient de ce qu'il y a autour de soi. Mais c'est différent que de se couper de l'environnement. C'est-à-dire que la conscience de l'environnement peut revenir extrêmement vite, quoi. Et l'esprit, dans, toujours, que ce soit bien concentré ou en étant conscient de l'environnement, l'esprit reste totalement détendu, quoi.
Ouais, voilà. Donc c'est pas forcément un symptôme de problème de, disons, quand même mettre du temps à se rendre compte. Je prends un exemple, je suis dans le bureau, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Quelqu'un parle au téléphone et à ce moment-là, elle me pose une question. Elle me dit, pas vrai, Orgen. Et à ce moment-là, je suis obligé de faire de rembobiner ce qui s'est passé pour pouvoir lui répondre. Parce qu'effectivement, au moment où elle parlait, je faisais pas attention.
Ça, c'est pas un problème. Après, il y a comment vous réagissez aussi par rapport au fait que la personne, eh bien, vous interpelle à ce moment-là.
Ou est-ce qu'il y a une détente ou pas
Est-ce qu'on ne peut pas considérer que quand Orgen parle de l'exemple-là, est-ce qu'il n'est pas dans le moment présent du coup de fil
Si on lui pose une question parce qu'il y a le coup de fil.
Non, comme l'exemple qui donnait que la personne aurait joué au téléphone, mais comme il est concentré sur son projet, il n'interprète pas le coup de fil.
Il le laisse complètement passer. Il est conscient qu'il y a un coup de fil. Mais son esprit ne se porte pas sur le coup de fil. Mais il en est conscient, il l'entend bien.
Oui, mais est-ce que le fait qu'il soit obligé de revenir en arrière pour saisir, pour retenir la conversation, est-ce que c'est l'attention qui a été en retrait de l'attention au coup de fil, à la personne qui parle au téléphone? Est-ce que c'est le fait qu'il ne soit pas présent à la conversation tout de suite, parce qu'il est dans son concentration, est-ce que c'est... Il n'y a pas un décalage par rapport au moment présent, justement, d'être dans la conversation de la personne?
Non, son moment présent, c'est d'être conscient dans ce qu'il fait. Il a été conscient du coup de fil aussi, mais son esprit ne se portait pas sur le coup de fil. Mais dans son moment présent, il y avait quand même le coup de fil. Donc il n'est pas en décalage. Simplement, son esprit ne se portait pas sur le coup de fil. Donc c'est pour ça que quand on lui pose une question, ensuite, il faut que son esprit revienne, en gros, sur le coup de fil, si vous voulez. Voilà. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il était déconnecté de ce qui se passait. Pas du tout.
En plus, pour pouvoir repartir en arrière et donner une réponse, c'est quand même que l'esprit était quand même attentif.
Absolument.
À ce qui s'est passé.
Absolument. Son esprit a été conscient de ce qui se passait.
Même s'il n'a pas porté complètement l'attention sur le coup de fil, il a quand même pu... Parce que des fois, il y a des gens qui se coupent complètement, quoi. Ouais. C'est comme sur les réveillés de leur concentration quand on leur pose une question. Des fois, il y a une concentration, mais il y a quand même une écoute de ce qui se passe autour, même si on n'est pas complètement intégré.
C'est ça.
Ça se fait beaucoup quand on fait quelque chose qui nous plaît.
Qui nous prend bien.
Ça fait penser à des activités, des fois on est...
Mais ça ne veut
pas... activités, quand on les fait, il y a même ces pensées qui peuvent passer.
On est conscient de tout cela, mais on laisse passer, quoi. Parce que pour le moment, on est sur quelque chose de plus précis et toute notre attention est sur cet élément-là, quoi. Ouais.
Du coup, elle parle de deux types de concentration. Une où finalement on peut se rendre compte, refaire une machine arrière dans sa tête pour retrouver une conversation comme il parlait. Ou l'autre, celle où on est vachement concentré, on raconte ce qui vient de se passer, on n'avait pas du tout quitté. Est-ce que quand on est vachement concentré, on n'a pas du tout suivi ce qui se passait autour de nous. Est-ce que c'est pas ce type de concentration qu'il faut développer? Enfin, je veux dire,
Non, mais il ne faut pas transposer de questions. Parce que votre exemple, ça rejoint l'exemple dont on parle là. C'est qu'il n'y avait pas non-conscience de ce qui se passait, mais notre esprit se portait à 100%, on va dire, si vous voulez, sur ce que on est en train de faire. Mais on n'est pas coupé de l'environnement. On n'est pas coupé de... Orgel a entendu quand même le téléphone, il entend la conversation.
Mais des fois on est coupé. Est-ce que c'est un problème?
Ah, être coupé, oui, à mon avis, oui.
Pourquoi?
Parce que on n'est plus conscient de l'ensemble des phénomènes.
Mais il n'y a pas de... On parlait de stress, etc. Il n'y a pas de stress.
Oui, mais l'opacité, c'est pas stressant du tout.
Mais je vois, ouais. Mais ça reste quand même de la concentration.
Mais il y a de la concentration voilée à ce moment-là. Parce que normalement, on ne doit pas être déconnecté de tout ce qui se passe, des autres phénomènes qui apparaissent. Donc ça, c'est une différence entre l'exemple que prend Orienne.
Allez-y. Vous avez dit que quelle que soit la chose que l'on fasse, il doit toujours y avoir une petite partie de l'esprit qui est conscient de ce que l'on fait et du reste.
Et surtout de ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Voilà, de ce que ça fait naître comme réaction dans l'esprit.
Comprendre que je suis effectivement concentré, mais donc il y a une partie qui examine et qui regarde et qui comprend ce qui se passe, alors que l'autre partie est complètement...
C'est l'aspect vigilant, c'est l'aspect connaissance de l'esprit, hein, qui doit toujours être là. Dans l'exemple que vous donnez, cet aspect connaissance, en fait, il se perd. Et je pense que dans cet exemple-là, vous ne pouvez pas être concentré de cette façon-là très longtemps.
Complètement.
Oui, parce que même cet état de concentration va se voiler.
Je crois pas que j'y suis arrivé.
Oui, simplement, c'est pour dire que est-ce que l'environnement peut être aussi, si on n'est pas maître de tout ça, les facteurs perturbateurs qui peuvent dire... Ça m'empêche, etc. C'est ça que je voulais faire remarquer. C'est là où la difficulté, le calme mental, prendre en considération son environnement tout en étant à son affaire, en quelque sorte, je dirais que c'est le pari de la réussite du calme mental. Je me parlais comme ça. Parce que bien souvent, c'est le facteur perturbateur en disant tu peux pas te taire, il y a du bruit, etc. Je ne sais pas comment tu peux.
Ouais.
C'est un petit peu la première réaction que l'on a.
Ouais.
C'est de rejeter.
Rinpoche, quand on discute par exemple avec lui, qu'il y a deux, trois personnes autour de lui qui discutent, en fait on se rend compte que ça ne le gêne absolument pas. C'est-à-dire qu'il est très concentré, il est conscient des autres qui discutent autour de lui. Mais son esprit, voilà, il n'y a pas de facteur perturbateur, il n'y a pas de, ça ne l'empêche pas d'être exactement dans ce qu'il fait, quoi. Alors pour les supports, Le temps de réflexion, les 10 minutes de réflexion, ça ne va pas changer. Mais c'est le support de méditation qui va changer. Le lundi, vous essayez de prendre pour support la visualisation du Bouddha en face de vous dans l'espace. Alors, quand on parle de visualiser, ça je reprécise parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « moi je n'arrive pas à visualiser ». Mais je pense qu'elles ne définissent pas correctement ce qu'on appelle une visualisation. Si tout de suite je vous demande de penser par exemple à vos enfants, si vous avez des enfants, à un de vos enfants, c'est difficile de le représenter mentalement. Vous imaginez, immédiatement vous pouvez reproduire cette image mentale de votre enfant. Si c'est une fille, si c'est un fils, s'il est grand, s'il est petit, vous pouvez même voir comment il est habillé. Vous pouvez tout de suite imaginer comment il est habillé. S'il a les cheveux longs, les cheveux courts, on n'en sait rien, la barbe, pas la barbe, etc. Immédiatement, vous pouvez représenter cette image mentale de votre enfant. C'est ça, visualiser. Il y a des personnes qui imaginent que visualiser, ça veut dire voir, comme moi je vous vois là maintenant. Ça, ils peuvent se forcer à visualiser un moment, hein, avant de voir le Bouddha vraiment là dans l'espace, aussi concret que je vous vois, quoi. Alors à partir de là, ils disent non, moi je ne peux pas visualiser. Non. Pour le moment, on définit la visualisation. Visualiser, ça veut dire ça. C'est reproduire une image mentale visualisée. C'est tout. Et pourquoi il vous est facile de reproduire cette image mentale concernant, par exemple, votre enfant? Ben, c'est parce que votre esprit s'est habitué à votre enfant. Donc, c'est très facile. C'est plus difficile de visualiser le Bouddha. Pourquoi? Parce que on ne vit pas avec la représentation du Bouddha à longueur de journée et qu'il faut une certaine familiarité de la représentation du Bouddha pour qu'elle devienne aussi facile à visualiser que de visualiser un proche, notre enfant. Voilà. En deuxième chose, quand on parle de visualisation, il est important de donner beaucoup d'espace à l'esprit. Détendez votre esprit avant de méditer. De toute façon, c'est une instruction générale. On ne peut pas méditer quand on a la tête dans le guidon, quoi. On rentre de son boulot complètement stressé, etc. Bon, et ben en plus, allez, maintenant c'est l'heure de la méditation, il faut que je m'y mette. Et alors, c'est impossible. Donc il faut détendre l'esprit. Donc prenez soin de votre esprit quand vous commencez à méditer. Et plus forte raison lorsque vous prenez pour support une visualisation. Si votre esprit a besoin d'être détendu, mettez une musique qui soit agréable à l'esprit et donnez de l'espace à l'esprit en imaginant un lieu, par exemple, que vous connaissez et dans lequel vous vous sentez bien et qui a cette notion d'espace. Suffisamment de montagnes dans les Vosges pour se dire, tiens, je vais dans un lieu avec de l'espace tout devant moi, autour de moi, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez vous dire, voilà, je suis installé dans mon lieu et puis j'imagine cet espace. C'est très important cette notion d'espace. Dans la pratique du Mahamudra, comme du Dzogchen, c'était la première... Liliane, tu le sais bien, puisque quand on cherchait le lieu, tu as cherché avec nous. C'était le premier critère dans le cahier des charges que Ringo Rinpoche nous avait demandé. Il fallait un lieu perché, quoi. Un lieu avec l'ouverture devant. Première chose qu'on a faite en arrivant ici, on a coupé les arbres qui étaient là-dedans. Parce que c'est très important, cette notion d'espace. Donc, utilisez-la dans votre pratique. Et quand vous avez cet espace en face de vous, que vous le sentez, que vous l'imaginez, ciel bleu, parfait, pas de nuages, dans cet espace, petit à petit, vous faites apparaître le Bouddha Shakyamuni, tel qu'il est représenté là. Mais vous ne le représentez pas comme une statue, pas comme une photo ou une peinture. C'est pas quelque chose de, là encore, de solide. Représentez-le comme immatériel, simplement de la lumière, un hologramme si vous voulez. Si un jour vous allez à Paris, allez au Halles visiter le musée de l'hologramme. C'est intéressant parce que l'apparence est vraiment réelle, on a l'impression vraiment que les personnages, les meubles sont là et on passe à travers, quoi. Donc c'est un peu cette image de l'hologramme si vous voulez. Et puis prenez du temps pour mettre en place la visualisation des différents aspects du Bouddha. Commencez par le visage, par exemple. Quelle est l'expression que vous avez envie de donner au Bouddha? Et là, vous pouvez, à ce moment-là, ressentir ce que vous avez envie de donner comme expression au Bouddha. Est-ce que c'est la compassion, la sagesse, la bonté, etc. Puis peut-être que lundi prochain, vous aurez envie de lui donner une autre expression, parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de ressentir cette expression-là, et peu importe. Mais passez du temps, mettez en place ses cheveux, par exemple, la protubérance crânienne, les lobes d'oreille. Toujours penser, bon, je l'ai raconté, mais les lobes d'oreille, ça me fait toujours penser à une dame que je connaissais au conservatoire russe à Paris, et Madame Davidova, qui avait plus de 90 ans, mais qui donnait encore des cours de chant. Et pour ceux qui connaissent l'opéra, c'est elle qui a créé la Dame de Pique à l'Opéra de Paris, et elle avait pour partenaire à cette époque-là Chaliapine. Donc c'était, voilà, c'est toute une époque. Elle avait des lobes d'oreilles énormes. Elle avait un accent russe, et un jour on lui a dit, mais Madame Davidova, vous avez vraiment des lobes d'oreilles impressionnants. Et elle nous a répondu, oui, j'ai eu beaucoup d'amants, et ils ont toujours été très généreux en carat diamant. Et chaque fois que je vois les oreilles du Bouddha, je pense à la Davidova. Voilà pour la petite histoire. Et après, quand vous avez passé comme ça 3-4 minutes sur le visage du Bouddha, eh bien vous passez 3-4 minutes sur son corps, son bras droit qui touche la terre à tes mains, son bras gauche qui repose au niveau du nombril, qu'est-ce qu'il tient sur la main gauche, ses vêtements, la couleur du corps, et puis ses jambes qui sont en posture vajra, hein, totalement croisées, et puis il est assis sur un lotus. Alors ce lotus, vous pouvez le voir de toutes les couleurs que vous voulez, le nombre de pétales que vous voulez. L'ensemble du Bouddha, vous pouvez le voir de la taille que vous souhaitez, rien n'est dit. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, faites-vous un film. À partir du moment où, cette fois, on nous autorise de se faire un film, une visualisation, c'est ça en fait. Mais c'est un support et qui peut nous introduire déjà aux différents supports du Vajrayana. Les visualisations, le week-end qui vient, ça va être Vajrasattva. Enfin, là, comme support, ça va être une visualisation. Et en fait, on peut permettre à notre esprit d'être légèrement agité, s'il a envie d'être agité, mais on canalise cette agitation dans l'ensemble de la visualisation. On passe 4 minutes sur le visage, 4 minutes sur le corps, 4 minutes sur le lotus, 4 minutes sur les jambes, 4 minutes sur les vêtements, etc. Plus que vous disiez, vous pouvez à ce moment-là laisser exprimer votre cœur si vous ressentez de la confiance, de la dévotion, etc. pour le Bouddha, voir si vous avez besoin, eh bien vous pouvez imaginer que du corps du Bouddha, c'est une lumière blanche d'amour, de compassion, de sagesse, de guérison, etc. qui vous baigne ou qui baigne des personnes que vous connaissez qui sont dans la souffrance, etc. Donc tout ça, vous êtes libre. Mais vos 20 minutes seront vite passées alors que vous serez, entre guillemets, amusé avec cette visualisation. Donc ça permet de maintenir l'esprit souple, détendu. C'est plus détendu que toujours j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Le jour où l'esprit est plutôt calme, ça va bien. Le jour où il est très agité, eh bien ce support est plus difficile à maintenir conscient, quoi. Voilà. Et puis vous pouvez voir le Bouddha de dos, de face, vous pouvez vous déplacer, aller le voir au-dessus, tourner autour, etc. Ça donne là aussi une souplesse à l'esprit. Ouais.
Est-ce qu'on peut essayer une statue d'essayer de reproduire en regardant comme ça?
Vous pouvez, ça vous pouvez. Mais faites en sorte que votre visualisation ne soit pas une reproduction solide hein, de la statue. Mais si vous avez besoin, et dans le cas des statues, pourquoi ça existe? C'est des rappels pour que notre esprit s'habitue petit à petit avec tel Bouddha, avec tel Gidam, etc. Donc ça, c'est le lundi. Le mardi, la réflexion, c'est la bodhicitta. Alors la méditation, ça va être tonglen. La méditation de tonglen. Tong veut dire envoyer, len veut dire prendre. Et ça, c'est une méditation qui touche vraiment la bodhicitta, l'esprit d'éveil et notre esprit de bodhisattva. Le week-end dernier, vous avez Motsu Rinpoche qui a expliqué le sens du terme bodhisattva en tibétain, Jangchub Senpa. Et souvenez-vous, pa, Jangchub Senpa, le pa, c'est de pao. Et pao en tibétain veut dire le héros. Un bodhisattva, c'est pas une chikmole. C'est un héros pour l'éveil. C'est quelqu'un qui s'engage à libérer les êtres de la souffrance. Retenez ça. Tonglen, c'est cet engagement-là. Cette pratique de Tonglen, elle s'appuie sur la respiration, mais elle donne toute la dimension du bodhisattva. Nous ne pouvons pas concrètement aider tous les êtres qui souffrent aujourd'hui sur la planète. Mais en tant que bodhisattva, nous devons faire quelque chose au moins par l'esprit. Si on ne peut pas faire quelque chose par le corps ou par la parole, on peut faire encore quelque chose par l'esprit. Se sentir responsable de la souffrance et du bonheur des autres. Ça, c'est l'esprit du Bodhisattva. Et par l'esprit, c'est cette méditation. On imagine, on visualise tous les êtres en face de nous, nos proches, mais tous les êtres aussi qui souffrent, et notamment les personnes qui, avec qui nous pouvons avoir des relations un peu difficiles. Et toutes ces personnes-là, on pense qu'elles sont en face de nous, et on visualise que toutes leurs souffrances et les causes de leurs souffrances, n'oubliez pas les causes de leurs souffrances, tout cela, ça prend l'aspect d'une lumière noire et qui se... qui sort de tous ces êtres, et que à chaque fois que l'on inspire, cette lumière noire, elle entre par nos narines, en nous, et elle vient dans notre chakra du cœur, où là, elle disparaît complètement. Et puis, à chaque fois que l'on expire, c'est une lumière blanche qui sort, qui s'élève du chakra du cœur, qui sort par nos narines, et qui vient les baigner et leur apporter la paix, la non-souffrance, et le bonheur ultime. Essayez de faire ça avec authenticité, tout votre cœur. Comme si vous le faisiez pour votre enfant qui est malade. Vous qui avez... Moi, je ne peux pas dire, mais vous qui avez des enfants, ceux qui ont des enfants, eh bien, il y a bien des fois où vous avez senti que ce n'était plus la tête qui parlait, mais que c'était vraiment tout votre potentiel d'amour et de compassion qui était en vous, dans votre esprit, et qui a fait que quelquefois vous avez pu dire, moi, que mon enfant ne souffre plus, tant pis si c'est moi qui souffre, mais que mon enfant soit libéré de cette souffrance. Et là, c'est vraiment le cœur qui a parlé. C'est vraiment les tripes, c'est plus du tout la tête, c'est plus de l'ordre du raisonnement et de l'analyse. Ça veut dire que nous avons ce potentiel-là, qu'il est là, qu'il est là. Il ne s'exprime pas toujours avec cette intensité, mais réaliser l'éveil, eh bien, ça permet à cette intensité de s'exprimer de façon continue, de façon vaste, de façon équanime. Nous pouvons le développer. Il n'y a rien à obtenir à l'extérieur de nous-mêmes, tout est en nous. Et puis cette méditation de Tonglen, on peut le faire quand on est en train de marcher, qu'on voit un animal en souffrance, qu'on voit quelqu'un qu'on rencontre qui souffre, quand on regarde la télé, qu'on regarde les nouvelles, en général il y a des mauvaises nouvelles, et bien pendant une demi-heure de journal télévisé, il y a de quoi faire le Tonglen pendant qu'on est en face de notre télé. Etc., etc. Donc il y a toutes les situations en fait peuvent devenir un support pour nous de cette méditation. Ça ouvre notre cœur, ça ouvre notre esprit de Bodhisattva. Et c'est surtout, ça va surtout permettre de faire passer l'autre avant nous-mêmes, de prendre vraiment en considération que l'autre est plus important que nous et que on doit faire quelque chose pour les êtres. Et ça, c'est l'esprit du Bodhisattva. Les Rinpoché, c'est ce qu'on peut ressentir quand on est auprès d'eux. Ils ne se soucient pas tellement de « j'aime ça, j'aime pas ça, je suis fatigué, je fais trop d'heures, l'avion c'est trop long, c'est pas confortable, etc. » Ils ne se posent pas tant ces questions-là. Ce que je fais là, est-ce que c'est utile pour les autres? Voilà ce qu'ils se disent. Et pour arriver à cela, ils ont dû entraîner leur esprit. Ça ne s'est pas produit comme ça, par miracle. C'est un entraînement. Et Tonglen permet cet entraînement. Ça va sur cette méditation? Donc on était au mardi. Le mercredi, c'est la respiration, comme on a fait tout à l'heure, comme vous avez fait pendant un mois. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Voilà comme... support de méditation. Le jeudi, la réflexion, c'est la bodhicitta, donc c'est à nouveau Tonglen. Le vendredi, c'est vous prenez comme pour support les objets d'essence. C'est-à-dire que pendant votre méditation, quand vous entendez un bruit, le temps que dure ce bruit, vous prenez ce bruit comme support. Puis ensuite, vous avez une sensation par exemple, alors vous portez votre attention sur cette sensation. Et puis ensuite, vous dites, tiens, il y a une odeur, alors vous prenez cette odeur comme support. Et vous passez comme ça pendant les 20 minutes de méditation en prenant pour support les différents objets d'essence. Alors ça permet à l'esprit de s'assouplir et de prendre tout comme support. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue, eh bien tout peut devenir à ce moment-là support. Donc ça ouvre l'esprit, ça l'assouplit, si vous voulez. Le samedi, c'est à nouveau Tonglen. Et le dimanche, c'est la résorption des éléments. Alors c'est une pratique qu'on appelle, souvent ça, le ciné spécial de Kalwa Rinpoche. Mais c'est pas Kalwa Rinpoche qui l'a inventé, c'est lui qui l'a enseigné, qui l'a réenseigné, mais c'est une pratique qu'on voit dans les sutras, ça existe dans les sutras, donc cette pratique a été enseignée par le Bouddha. Et on se représente symboliquement les différents, des symboles, hein, donc on se représente dans l'espace des symboles, qui représente les différents éléments. Et on commence par visualiser dans l'espace en face de soi l'élément terre. Et l'élément terre, c'est un carré jaune. Alors vous ne le voyez pas comme en plastique, hein, vous le voyez un peu, là encore, immatériel, comme de la lumière. Mais un carré jaune, et vous essayez de lui donner 12 cm de côté. C'est précis, hein. C'est pas 12 cm et demi. Hein. Non, je plaisante. Mais donc, voilà. Votre carré jaune dans l'espace. Alors, Kalwa Rinpoche disait, ce n'est pas un cube. Il y a une épaisseur. On lui disait, oui, de combien l'épaisseur ? D'une certaine épaisseur. Voilà. C'est la précision tibétaine. Et puis, quand vous avez visualisé pendant 4 minutes, quelque chose comme ça, ou 5 minutes, votre carré jaune, vous pensez qu'il se dissout, qu'il s'évanouit dans l'espace, ou alors vous pouvez imaginer qu'il s'éloigne jusqu'à disparaître. Mais en tout cas, quand il a disparu, il y a apparition à sa place de l'élément eau. L'élément eau, c'est un disque blanc de 9 cm de diamètre, et Kalwa Rinpoche, Boka Rinpoche disait, ce n'est pas un CD. C'est un disque, mais il y a là aussi une certaine épaisseur. Donc, 9 cm de diamètre. Et puis là, pareil, vous portez votre attention pendant 5 minutes, et puis il disparaît. Et à nouveau, vous avez un autre élément qui apparaît, c'est l'élément feu. Et l'élément feu, c'est un triangle, pointe en haut, de couleur rouge, 6 cm de côté. Et puis cet élément disparaît, ce triangle rouge disparaît, et c'est l'élément air qui apparaît. Et l'élément air, c'est un demi-cercle de couleur verte, et ce demi-cercle, le diamètre est en haut, et l'arc est en bas. Hein, c'est vraiment comme ça. Et là, c'est... alors on en était combien de centimètres, 3
centimètres,
là
3 centimètres.
Donc 3 cm de diamètre. Donc, hein, ça... Comment ?
Ça diminue.
Ça diminue, oui. Quand l'élément R disparaît, c'est l'espace qui apparaît. Et l'espace, vous le représentez sous l'aspect d'une sphère de lumière bleue d'un centimètre et demi de diamètre. Donc l'espace est petit. Après, l'espace disparaît et c'est la conscience qui apparaît. Alors là, il y a deux versions. Il y a la version Kalwa Rinpoche qui disait la conscience, c'est pas plus gros que la tête d'une épingle. Ou il disait aussi une graine de moutarde. Donc Kalwa Rinpoche, lui, était encore plus tibétain, il disait il n'y a rien, mais il y a quand même quelque chose. Mais il y a encore quelque chose. Ça, c'est vraiment encore plus précis. C'est-à-dire, il n'y a rien, on ne peut rien voir, mais on devine encore quelque chose, hein, si vous voulez. Et puis après, vous faites disparaître la conscience. Et vous restez à ce moment-là, quelques minutes, ou quelques secondes, on va dire, l'esprit clair, lucide, conscient, mais qui ne repose sur aucun support. Voilà. Dès que vous sentez que l'esprit s'agrippe à quelque chose, vous arrêtez. Et puis, cet ensemble de visualisations pour la semaine, vous faites ça pendant 3 mois. Et en janvier, on modifiera les supports. Mais il y a une progression dans ces supports. Le dernier support du dimanche, la dissolution des éléments, ça a 2 avantages. Ça permet déjà de travailler avec la dissolution des éléments tels qu'ils se dissolvent lorsqu'on s'endort ou lors du moment de la mort. C'est l'élément solide, hein, quand il y a la mort, les signes annonciateurs de la mort commencent par la résorption de l'élément solide. Et là, la personne ne peut plus se lever, ne peut plus se mouvoir, etc. Et ça, on a ce même phénomène quand on s'endort. Quelquefois, on est conscient, quand on s'endort, eh bien, de l'alourdissement du corps, quoi. Bon, après, la résorption des autres éléments, en général, ils se font alors que on est tombé dans le sommeil. Hein. Mais ensuite, il y a l'élément eau qui se résorbe, puis l'élément feu, etc. Et puis le deuxième intérêt de cette méditation, c'est que ça se termine par le non-support, un chiné sans support. Et pour l'actong, pour la vision supérieure, il faut arriver à méditer sans support. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette qualité de conscience, mais sans qu'elle ait besoin de reposer sur un support. Donc, au cours de l'année, nous irons davantage vers des méditations sans support, petit à petit, de façon à ce que, à la fin de l'année, eh bien, la méditation sans support vous permette de passer vraiment dans le rectangle.
Et est-ce que le chiné de Kalo Rinpoche, est-ce qu'on peut parler de méditation du Vajrayana, dans le sens où il y a une phase où on crée quelque chose, puis il y a une phase où on dissout tout
C'est bon ces différents supports, ça va? Donc maintenant, ben voilà, il reste à appliquer. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus?
La méditation du lundi au dimanche dure combien de temps?
La réflexion dure 10 minutes et la méditation 20 minutes. Et vous pouvez dissocier les deux si vous voulez. Hein, si vous n'avez que, je sais pas, 20 minutes, vous faites la méditation et puis à un autre moment dans la journée, vous pouvez faire 10 minutes de réflexion.
La méditation, c'est mieux de la faire le matin ou le soir?
Alors, on dit que c'est mieux de la faire le matin parce que l'esprit est moins encombré de tout ce que l'on a fait dans la journée. Mais après, ça, c'est vraiment en fonction de votre mode de vie. Si vous devez vous lever tôt pour votre travail, si vous avez des enfants en bas âge, etc., qu'il faut préparer pour l'école, etc. Ça dépend aussi de votre esprit. Il y a des personnes le matin... ne sont pas trop speed pour commencer leur journée, mais c'est simplement l'esprit qui a du mal à émerger, quoi. Voilà. Alors à ce moment-là, si vous avez plus de temps de disponibilité le soir, rien ne vous empêche de le faire le soir. Ce qui serait bien, l'idéal, c'est de prendre l'engagement de ne pas aller vous coucher sans avoir fait votre demi-heure. ça, c'est le secret de la réussite. Mais personne n'ira contrôler. Hein. Donc ça, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même. Hein. Ça va? On peut boire une infusion? Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.